Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons la lecture du livre « Les Victorieuses » de Laetitia Colombani, édition Grasset, dans le livre de poche. Et je vous rappelle que ce livre nous parle non seulement du palais de la femme, cet hôtel social appartenant à l'armée du salut et qui se trouve à Paris, mais aussi de deux personnes plus spécialement, Solène, une brillante avocate qui tente de se reconstruire après un burn-out, et de Blanche Perron, qui a voué sa vie à l'armée du salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Notre lecture du jour nous amène dans cette première partie à suivre Blanche Perron lors d'une tournée de nuit pour offrir un bol de soupe aux sans-abri. L'image d'une jeune femme et de son bébé la touche particulièrement. Reprenons notre lecture. Chapitre 11, Paris 1925. Blanche frissonne sous sa jaquette en jersey. Albin avait raison. Cette nuit de novembre est glaciale. Le froid transperce le cuir des bottes et la laine des manteaux. Il pénètre dans la chair aussi profondément que la lame d'un couteau. Blanche ne sent plus ses pieds. Ses mains sont engourdies, gelées. Elle a du mal à remuer les doigts. Il faut pourtant continuer. Ce soir, elle accompagne l'équipe de la soupe de minuit. Une nouvelle offensive contre la faim et le froid qu'Albin et elle viennent de lancer. Blanche tient à suivre elle-même la distribution des premiers repas. « Bonsoir, madame la commissaire !» lui lance une officière. « Commissaire ?» Blanche n'est pas encore habituée à ce qu'on la nomme ainsi. Elle n'a jamais été mue par une quelconque forme d'ambition personnelle. Mais ce titre la rend fière, elle doit l'avouer. C'est la plus haute distinction de l'armée au niveau national. Albin et elle l'ont reçue conjointement. Ils en partagent le titre et les responsabilités, comme ils partagent le reste. Ceux qu'on a pris l'habitude de nommer indistinctement « les Perron », comme s'ils ne formaient qu'un, sont parvenus au sommet de la hiérarchie, à la tête de l'armée. Il a été long le chemin, malaisé. Dans les années qui ont suivi le mariage de Blanche et d'Albin, l'organisation salutiste a essuyé ses plus cruels revers. Elle a même failli se dissoudre, faute de moyens. Un peu partout, des postes ont fermé. Les villes de France, les campagnes, toutes ont résisté au projet du pasteur anglais. Et surtout, Paris. Paris que Blanche aime tant pourtant. Paris qu'elle ne connaissait pas et dont chaque pierre lui semble étrangement familière. De tous les champs de bataille qu'elle a foulés, Paris est celui qu'elle préfère. Celui où subsistent les plus grandes inégalités. Celui où les plus démunis sont broyés. Paris sera le combat de sa vie. Durant cette période, Blanche donne naissance à 6 enfants. Fidèle à ses vœux, elle poursuit sa lutte au sein de l'armée, multipliant les collectes en province, à l'étranger, ne ménageant ni son sommeil ni sa santé. Enceinte quasi constamment, elle doit parfois se résoudre à interrompre une conférence pour aller accoucher avant de repartir au front. Quant à Albin, il est le compagnon fidèle et dévoué qu'il avait promis d'incarner. Il relaie Blanche auprès des enfants afin que chacun puisse œuvrer de son côté. Au fil des années, leur duo s'affine, tels deux instruments s'accordant l'un à l'autre, tels les deux roues d'un vélo avançant en simultané. Leurs efforts finissent par payer. Après des années de disette et de récession, l'armée, connaît une flamboyante envolée. Sous le règne des Perron s'ouvre une ère de grandes constructions, d'ambitieux projets. Blanche et Albin fondent le Palais du Peuple dans le quartier des Gobelins à Paris, un hôtel social pour les hommes sans abri, ainsi que le refuge de la Fontaine au Roi pour les femmes. Sous leur impulsion, des hôtelleries et des foyers fleurissent un peu partout en province. À Lyon, Nîmes, Mulhouse, Le Havre, Valenciennes, Marseille, Lille, Metz et Reims. Ils créent l'armoire du pauvre, qui distribue meubles et vêtements, et la soupe de minuit, dont le chaudron sillonne les rues de Paris, pour offrir à manger aux plus démunis. Ils sont nombreux ce soir-là à se presser autour de l'énorme marmite norvégienne calée sur une charrette à bras. Ils font la queue dans le froid pour quelques lampées de bouillon qui constituent parfois leur seul repas de la journée. Les officières de l'armée font circuler des couvertures, des corbeilles de pain. 200 soupes pour 200 estomacs. C'est trop peu, et Blanche le sait. Ils sont des milliers à souffrir de la faim. « Nous n'avons pas d'argent, » murmure un sans-logis en refusant le bol qu'on lui tend. « Nous ne vendons pas la soupe, nous l'offrons, » répond Blanche en soufflant sur ses doigts bleuis. De rares passants glissent sur la chaussée, se hâtant de rentrer chez eux. Ils ne s'arrêtent pas. La pauvreté fait peur, elle écarte, elle effraie. Minuit approche. Bientôt les rues seront à nouveau bruyantes et animées. Les théâtres et les cabarets se videront de leurs spectateurs qui regagneront leurs intérieurs douillés. Le cœur de Blanche se serre à cette pensée. Qui songera aux 5000 sans-abri qui errent dans la ville sans toit ni lit? Paris la nuit, Blanche connaît. Loin de l'image d'Épinal, de la Concorde ou des Champs-Élysées, elle arpente la capitale, la vraie. Elle remonte la rue de Bièvre, des Trois Portes, la rue Frédéric-Sauton entre les cafés de la place Maubert, où des dizaines d'hommes et de femmes dorment assis, la tête courbée sur leurs bras repliés. C'est ainsi, le vin réchauffe et réconforte. Blanche se ferait un chemin au milieu de cette masse humaine indifférenciée. Cette vision la bouleverse à chaque fois. Certains s'habituent, elle pas. Viennent ensuite les ponts près de Notre-Dame, la rive droite, les ruelles noires et étroites du quartier des Halles. Le ventre de Paris abritant son sein d'obscurs recoins où le malheur s'entasse dans la crasse et le froid. Elle est toujours là, l'empathie. Elle ne l'a pas quittée. Blanche est une caisse de résonance pour la souffrance d'autrui. À son contact, celle-ci se réverbère et se démultiplie. La commissaire a du mal à dormir dans un lit lorsqu'elle sait que certains couchent dehors. Lorsqu'ils ont froid, elle grelotte aussi. Les femmes, tout particulièrement, la touchent. Elles sont ses sœurs des rues, ses slum sisters, comme les nomment les Anglais. En chacune d'elles, Blanche se reconnaît. Elle voit une autre version d'elle-même, une version maltraitée par la vie, un pot cassé qu'elle voudrait réparer. Elle se souvient de cette prostituée qu'elle avait croisée boulevard de la Villette alors qu'elle n'était encore qu'une jeune officière tout juste engagée dans l'armée. Assise sur un banc, la robe déchirée, la femme pleurait. Émue, Blanche s'était approchée et dans un élan incontrôlé l'avait prise dans ses bras. Elle n'avait rien d'autre à offrir que cela, cette étreinte, ce geste dérisoire et immense qui signifie « Je suis avec toi ». Blanche est avec eux. Par cette nuit glacée, elle continue sa ronde auprès des sans-abri. Albin sera fâché de ne la voir rentrer qu'au matin, assaillie par la toux, épuisée. « Mais qu'importe? Elle sait que sa place est ici, pas dans son lit. Le cortège de la soupe s'arrête dans un faubourg du 13e arrondissement, défiguré par la pauvreté. Blanche s'approche d'un baraquement de fortune quand soudain un vagissement résonne dans l'obscurité. Elle frissonne. Elle, qui a mis au monde 6 enfants, sait reconnaître le cri d'un nouveau-né. Celui-là n'a pas plus d'un mois, elle pourrait le jurer. Elle se faufile parmi les cartons et les tôles ondulées pour découvrir, sur un matelas à même le sol, un petit corps grelottant de froid. Sa jeune mère est auprès de lui. Elle est pâle, d'une maigreur effroyable. Elle dort dehors depuis l'accouchement. Blanche saisit l'enfant pour le réchauffer. « Il faut aller à l'hôpital. De toute urgence, dit-elle. « J'en viens, répond la jeune maman. Il n'y a plus de place là-bas. » Blanche décide de la conduire au centre d'accueil de la Fontaine-au-Roi, un refuge pour femmes qu'Albin et elle ont fondé il y a quelques années. Située au fond d'une impasse, la maison est chauffée et propose 200 lits. S'y retrouvent des employés de magasins, des colporteuses de bibelots à 2 sous, des vendeuses de journaux, des ouvrières sans famille, des domestiques sans travail, des provinciales fraîchement débarquées à Paris, attirées par le miracle de la capitale. Autant de victimes de la crise du logement que la ville recrache sur ses pavés glacés. Lorsque Blanche et la jeune maman parviennent devant le centre d'accueil, l'endroit affiche complet. Le refuge est pris d'assaut, confie la commandante de l'armée qui le dirige. Elle se voit obligée d'en refuser l'accès à des centaines de femmes chaque soir. 215 hier, précisément. Il faudrait 2 ou 3 maisons comme celle-ci pour les loger. La jeune mère est livide. Son bébé s'est remis à pleurer. Dans la rue, une mendiante s'éloigne, faute d'avoir trouvé un lit, et lui lance en désignant l'enfant « Tu n'as plus qu'à le flanquer à l'égout maintenant !» Cette phrase, Blanche ne l'oubliera jamais. Ces mots vont la hanter. De son sac et de ses poches, elle sort les pièces et billets qu'elle parvient à trouver et les tend à la jeune maman. De quoi s'offrir quelques nuits dans une auberge chauffée. Cet obole est une solution temporaire, autant qu'illusoire. Blanche le sait. La pauvre femme finira par retourner dans son bouge du 13e arrondissement. En la regardant s'éloigner, son bébé dans les bras, Blanche sent ses forces la quitter. Toute une vie de combat pour en arriver là. Il n'a donc servi à rien, son engagement. Tant d'années passées à se battre, à croire en l'armée. Pourquoi? À quoi bon continuer? Un enfant qui meurt de froid, c'est l'humanité tout entière qu'elle est impuissante à sauver. C'est un échec, une débâcle, une déroute plus cruelle que toutes celles qu'elle a dû affronter. Elle voulait changer le monde? Quelle vanité! Son action est dérisoire, une goutte d'eau dans un océan de chagrin. À cet instant, tout lui paraît inutile et vain. Anéantie, Blanche s'assoit sur un banc. Le jour se lève. Ses membres sont si engourdis par le froid qu'elle ne sent plus ses mains ni ses pieds. Le découragement qui l'envahit est tel qu'elle n'a pas même la force de rentrer. Elle regarde un vendeur ambulant installer ses journaux dans l'aube glacée. Il n'a pas 16 ans. « Pauvre R, songe-t-elle, il passera sa journée dehors. Qui sait où il a dormi? Ils sont des milliers comme lui. » Elle songe à ses propres enfants, dont la plupart se sont engagés dans l'armée. Quelle utopie! Elle aurait dû les en dissuader. Blanche s'approche et tend au jeune vendeur un morceau de pain, dernier vestige de la soupe de minuit. « Le gamin la dévisage d'un air étonné. Il prend le quignon et le dévore avidement. Blanche est touchée par ses traits juvéniles. Il y a un reste d'innocence dans ses yeux, reliquat de l'enfance. La vie ne l'a pas encore broyé, cela viendra, songe-t-elle amèrement. Le gosse lui sourit de ses lèvres gercées et lui tend un journal pour la remercier. Blanche n'en veut pas. « Garde-le, tu le vendras !» Il insiste, il ne mendie pas. Sous ses vêtements d'un sou, il est fier, touché. Touchée, Blanche accepte le journal avant de s'éloigner. Elle regagne son appartement harassée. Le jour est levé. Albin a maraudé toute la nuit, lui aussi. Il est rentré à l'aube et s'est couché. Blanche sait qu'elle ne parviendra pas à dormir. Inutile d'essayer. Elle marche jusqu'à la cuisine et prépare du café. Le liquide brûlant réchauffe lentement ses membres engourdis. Elle a posé le journal sur la table et le feuillette d'un air indifférent, en songeant à la jeune mère et à son bébé. Combien de temps tiendront-ils dans le froid? Combien cet hiver fera-t-il de victimes? Combien d'hommes, de femmes, d'enfants mourront faute d'avoir un abri à l'image de ces deux sœurs de 80 ans retrouvées sans vie dans un champ à Nanterre? Blanche les connaissait bien. Les deux jumelles venaient d'être expulsées et n'avaient nulle part où aller. Elles n'avaient jamais été séparées de leur vie. Elles sont mortes ensemble dans la neige par une nuit glacée. Les doigts noircis par l'encre du journal, Blanche tourne distraitement les pages. Quelques mots soudains l'interpellent. Le scandale de Charonne. Et il y a des gens qui meurent de froid. Blanche se fige, pose sa tasse de café. Albin s'est réveillé. Il entend du bruit à la cuisine. Il se lève et trouve sa femme debout, agitée. Elle n'a visiblement pas dormi de la nuit. Sans prendre le temps de l'embrasser, Blanche lui tend le journal, fébrile. « Lis ça !» lui dit-elle. « Lis ça et habille-toi. On y va !» Chapitre 12. Paris, aujourd'hui. Un cours de Zumba ? Face à Binta, Solène a tenté de protester. Elle n'a jamais pratiqué la danse. Elle n'a aucun sens du rythme. Elle est raide comme un piqué. Les tatas ne lui ont pas laissé le choix. Quand Binta décide, on ne discute pas. Solène a argué qu'elle n'avait pas de tenue, qu'elle ne connaissait ni les mouvements ni les pas. « Tu viens !» a répondu Binta pour clore la discussion. « Ça te fera du bien !» « Des affaires, on va t'en prêter !» a ajouté la femme aux 2 euros en lui tendant une paire de leggings. Binta lui a passé un t-shirt, provoquant l'hilarité de ses amis. « Donne-lui plutôt un de Soumeya, elle fait 10 tailles de moins que toi !» Toutes ont ri. Binta a haussé les épaules, ignorant la moquerie. « On n'a pas idée d'être maigrichonne comme toi !» « Viens passer un mois chez Tata, » a renchéri la première. « Elle te fera son foutis et ses biscuits. Kilo garanti !» Solène a abdiqué. La lettre à Kalidou, elle l'écrira plus tard. De toute façon, elle n'est pas en état aujourd'hui. Le cours de Zumba se tient une fois par semaine au gymnase du Palais. Il est accessible aux gens du quartier et aux résidentes selon le principe de mixité prôné par la directrice. Certaines employées y participent aussi, dont la jeune femme de l'accueil. La petite Soumeya, rentrée de l'école, assiste au cours en prenant son goûter auprès de Viviane, la tricoteuse. Celle-ci ne danse pas, mais s'assoit dans un coin, ses aiguilles à la main. Elle semble apprécier la musique et l'ambiance. Binta présente Solène au professeur de danse. Fabio, À 27 ans, un corps d'athlète et un accent brésilien charmant. Jeune et jolie, songe Solène. Hélas, elle n'est guère à son avantage aujourd'hui, vêtue d'un collant fluo et d'un t-shirt surdimensionné qui flotte sur elle comme une chemise de nuit. Fabio l'accueille chaleureusement. « Ici, on n'est pas là pour juger, lui dit-il, juste pour s'amuser. Il n'y a pas d'esprit chagrin. Les soucis, on les laisse au vestiaire. » Solène se place au fond de la salle, mais Fabio la fait remonter au premier rang. « Tu seras mieux devant. » Elle obéit, la mort dans l'âme. Il branche son iPhone et aux amplis et un titre de Rihanna retentit. En un éclair, la musique emplit tout l'espace. C'est un tube rythmé, entraînant, qui parle de diamants et du choix d'être heureux. Regarde-nous briller dans le ciel, regarde-nous comme on est beau, tellement vivant, dit la chanteuse en anglais. Solène n'a guère le temps d'écouter les paroles. Elle tente de suivre tant bien que mal les mouvements de Fabio. Le jeune homme s'est lancé dans une chorégraphie endiablée. Son énergie est communicative. Il ressemble à une pile qu'on viendrait de charger. Solène est perdue. Trop de pas, trop d'enchaînement, tout est nouveau, tout va trop vite. Elle n'a pas encore fini un mouvement que Fabio est déjà passé au suivant. L'exercice demande à la fois sens du rythme, coordination et lâcher prise. Elle n'a rien de tout cela. Autour d'elle, les tatas suivent d'un air habitué. Solène est en nage, essoufflée, elle n'y arrive pas. « Ne t'inquiète pas, lui dit Fabio entre deux chansons. C'est une question d'entraînement. Concentre-toi sur tes pieds. Pour les bras, on verra après. » Solène acquiesce et reprend. Devant les tatas, elle ne veut pas flancher. Elles l'ont amenée ici, ce n'est pas rien. Cette invitation à partager leur cours est un adoubement, un geste qui signifie « Tu as ta place dans cet endroit, alors Solène ne lâche pas. » Elle a les yeux rouges d'avoir trop pleuré, les cheveux emmêlés. Elle est à bout de souffle au bord de la syncope, vêtue comme un épouvantail, mais elle tient bon. Elle commence même à éprouver un étrange sentiment de bien-être, à se laisser gagner par l'enthousiasme ambiant. Il y a la musique et Fabio, il y a les tatas, la petite Soumeya. Il y a la tricoteuse dont les aiguilles s'agitent en rythme. Solène sourit. Elle est en vrac, en morceaux, mais elle est en vie. Elle sent son cœur battre à tout rompre, ses tympans vibrer, son sang affluer dans ses membres et chaque partie de son corps, tous ses muscles sont contractés. Elle a des crampes partout, mal à des endroits qu'elle ne connaissait pas. Il lui semble qu'elle sort de longs mois de torpeur, tel un ours polaire chassé de sa tanière, tel la belle au bois dormant s'éveillant au bout de 100 ans. Elle saute, bat des mains et des pieds, fait bouger ses jambes et ses bras. Elle trébuche, perd la cadence, se rattrape, se relance. Elle s'abandonne à la musique parmi les tatas. Et leur danse soudain est comme un grand pied de nez au malheur, un bras d'honneur à la misère. Il n'y a plus de femmes mutilées ici, plus de toxicomanes, plus de prostituées, plus d'anciennes sans-abri, juste des corps en mouvement qui refusent la fatalité, hurlent leur soif de vivre et de continuer. Solène est là, parmi les femmes du palais. Elle est là et elle danse comme jamais elle n'a dansé. La séance s'achève dans une profusion de cris et d'applaudissements. Solène est dans un état second. Elle n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé. Une heure ou deux, elle n'en sait rien. Le silence se fait, la salle se vide en un éclair. Les tatas disparaissent vers les étages, les employés et les non-résidentes quittent le gymnase. Binta amène Soumeya, la tricoteuse rassemble ses pelotes et s'en va. Fabio s'éloigne de son côté. Solène n'a pas le temps de retirer les vêtements qu'on lui a prêtés pour les rendre au tata. « Tu leur donneras la prochaine fois !» lui dit la jeune femme de l'accueil en rajustant le foulard discret qui couvre ses cheveux. « Pour une débutante, tu t'en es bien sortie ?» Solène sourit. Elle sait que ce n'est pas vrai, mais la sollicitude de la jeune femme la touche. Il y a dans son visage une douceur qui inspire la sympathie. Elles n'ont jamais eu l'occasion de se présenter vraiment, ni de discuter. « Je m'appelle Salma », ajoute la jeune employée en lui tendant la main. Solène s'en saisit, enchantée. Elles se dirigent ensemble vers le hall d'entrée. Évoquant les courbatures probables du lendemain, Salma confie qu'après son premier cours, elle a eu du mal à marcher pendant 2 jours. Elle désigne alors un petit restaurant japonais juste en face du palais. Avec quelques collègues, elles ont l'habitude de s'y retrouver chaque semaine après la Zumba. Ce n'est pas de la grande gastronomie. 7,50 € pour un menu brochette ou maquis, mais l'endroit est calme et la patronne sympa. Si le cœur lui en dit... Solène hésite. La nuit vient de tomber. Elle songe à son appartement où personne ne l'attend. Elle n'a aucune envie de rentrer. Elle a besoin d'un peu de chaleur après cette interminable journée. Ce n'est pas si souvent, pense-t-elle, qu'on recroise son grand amour dans la rue, qu'on achète des chaussons pour bébé à la volée, qu'on s'effondre en larmes dans les bras d'une inconnue, qu'on prend son premier cours de Zumba au milieu des tatas. Elle accepte la proposition de Salma. Elle n'a pas mis les pieds dans un restaurant depuis des mois, mais elle s'en sent capable aujourd'hui. Et qui sait, elle n'est pas à l'abri de se faire des amis. Chapitre 13. Elle reste tard à discuter dans le restaurant japonais. Les collègues de Salma s'appellent Stéphanie, Émilie, Nadira, Fatoumata. Elles sont travailleuses sociales, éducatrices jeunes enfants, secrétaires et expertes comptables. Elles confient qu'elles savourent ce moment de répit après leur journée éprouvante au palais. Entre ces murs, tout est plus intense. La vie bat plus fort, les émotions sont décuplées. Le manque de tout et la misère tendent les rapports entre les résidentes et les employés. Certaines personnalités sont difficiles à gérer. Elles en arrivent à parler de Cynthia. On en arrive toujours à parler de Cynthia, confie Salma. Cynthia, l'énervée. Solène se souvient de ses cris dans le grand foyer. Il y a encore eu un incident aujourd'hui, soupire Stéphanie. Cynthia a vidé l'intégralité du frigo, partagé de la cuisine du 2e étage, et a tout balancé. On ne sait plus quoi faire avec elle, poursuit-elle. Elle a déjà été sanctionnée maintes fois. À la prochaine incartade, elle risque l'exclusion. Mais l'exclusion ici est lourde de conséquences. C'est un fait rarissime dans l'histoire du palais. Sa vocation est d'accueillir, pas de rejeter. La plupart de celles qui vivent ici n'ont qu'un rêve, avoir leur propre logement. Habiter en foyer n'est pas un choix, mais une nécessité, un pis-aller, une salle d'attente pour une vie meilleure. L'attente peut durer longtemps, parfois des années. Pourtant, certaines ont du mal à se détacher du palais. Après 8 ans de bataille administrative, une résidente a obtenu enfin le HLM qu'elle espérait. Depuis qu'elle y est installée, elle revient passer ses journées au foyer. Dans son nouveau quartier, elle ne connaît personne. Elle se sent seule et s'ennuie. « Ici, dit-elle, on a toujours quelqu'un à qui parler. Et puis, il y a les cours, les activités, les employés. Il y a le monde, il y a la vie. » Salma peut en témoigner. Elle a longtemps vécu au palais avant d'y être engagée comme hôtesse d'accueil. Elle est arrivée enfant avec sa mère, fuyant la guerre en Afghanistan. Elle se souvient encore du jour où elle a franchi les portes du foyer pour la première fois. Elle s'est approchée du grand piano à queue, fascinée. Elle n'avait jamais vu pareil instrument. Elle a avancé la main et appuyé sur une touche. Un son puissant a retenti dans la salle. Immédiatement, sa mère lui a ordonné de cesser. Mais la directrice d'alors lui a dit, dans les quelques mots de Pachoun qu'elle avait appris, « Laissez-la, elle peut jouer !» Elle a ajouté, « Vous êtes chez vous ici !» La petite fille a grandi entre le piano à queue et le studio de 12 mètres carrés qu'on leur a attribué. Ni Salma, ni sa mère ne parlaient le français. Pour apprendre à lire, l'enfant s'entraînait à déchiffrer les plaques des chambres de leur étage. Sur chaque porte est inscrit le nom du fondateur, d'un fondateur ou une citation. Elle a fini par les connaître par cœur. Le palais est devenu à la fois son terrain de jeu et sa maison. Un incroyable champ d'exploration. Elle évoque avec affection Zora, la femme de ménage auprès de laquelle elle courait se réfugier lorsque sa mère l'a grondée. Zora la consolait toujours de quelques gribiasses sorties de sa blouse, ces petits sablés dont Salma raffolait. Elle se souvient des tatouages au henné qui ornaient son front, son menton et ses mains, et qui, affirmait Zora, la protégeait du mauvais sort. Elle est encore là, aujourd'hui. Après 40 ans de service, Zora est la plus ancienne employée du palais. Elle connaît tout le monde ici et recueille les confidences de chacune. Elle parle peu, mais elle sait écouter. Zora dit qu'avec toutes les larmes qu'elle a vues couler, elle pourrait remplir une piscine. On l'appelle aussi pour apaiser les conflits. La vieille femme ne prend jamais parti, mais elle est sage et avisée. À son contact, les plus récalcitrantes finissent par s'amender. Dans quelques mois, elle partira à la retraite. C'est une page de l'histoire du palais qui va se tourner. C'est aussi un peu de l'enfance de Salma qui va s'en aller. Salma, en arabe. Son prénom signifie « entière, en bonne santé ». Elle se dit fière de le porter. Elle raconte comment dans son pays, les femmes sont dépossédées de leur identité. Dans la société afghane, les étrangers à la famille n'ont pas le droit de connaître le prénom des femmes. On doit les appeler par celui d'un homme. Elles sont la femme de, la fille de, la sœur de. En cas de doute, on dit « tante ». Les Afghanes n'ont pas d'existence propre dans l'espace public. Cette tradition persiste notamment dans les campagnes où vivent les 3/4 de la population. Partout, les femmes luttent pour la reconnaissance de leur identité. Elles clament leur droit à exister. Ici, Salma n'est la fille ni la sœur de personne. Elle est simplement elle, Salma. Elle tient debout toute seule et cela lui plaît. Elle se sent reconnaissante envers ce pays qui l'a adoptée. Après 10 ans passés en tant que résidente au palais, Salma jouit aujourd'hui d'un statut différent. À présent, elle est une employée. Père aidante, tel est le terme consacré. C'est ainsi qu'on nomme les personnes dans son cas. Selon les mots de la directrice, Salma a un savoir expérientiel, une expression compliquée, pour dire qu'elle comprend les tourments de l'errance, la précarité, le déracinement. Son vécu a de la valeur, a dit la directrice, et cette idée a surpris Salma. Elle s'est vue proposer une formation, à l'issue de laquelle elle a signé un contrat, le tout premier de sa vie. Aujourd'hui, Salma n'habite plus ici. Elle a son propre appartement, un salaire, un emploi. Elle est consciente de la chance qui lui a été donnée. Elle fait partie d'un monde envié, le monde de ceux qui travaillent, en d'autres termes qui sont utiles, nécessaires à la bonne marche de la société. Il lui est difficile de dire ce qu'elle ressent lorsqu'elle s'assoit à l'accueil, derrière le comptoir en formica. Il est tel qu'elle l'a connu il y a 20 ans. Le hall n'a pas vraiment changé, malgré les récents travaux de rénovation. Il y a le planning des activités, les fauteuils destinés aux nouvelles venues. Elle s'y revoit assise auprès de sa mère, avec pour tout bagage cette valise qu'elles étaient parvenues à sauver de la traversée. Leur voyage avait duré des mois. Elles étaient exténuées. À présent, c'est elle qui tient le standard. Elle gère les départs et les arrivées. Elle accueille, oriente, écoute, comme elle-même a été accueillie, orientée, écoutée. Au palais, tout le monde l'apprécie. Cet endroit l'a sauvée. Elle voudrait lui rendre tout ce qu'il lui a donné. C'est elle désormais, oui, c'est elle, dit-elle avec fierté, la gardienne du palais. Dans cette deuxième partie, c'est de Solène que nous avons parlé. Cette jeune avocate en plein burn-out, qui tente de se reconstruire et qui pour un temps devient écrivain public au sein du palais de la femme. Venue aider ces personnes en difficulté, c'est pour une fois elle que Binta, les Tata et quelques autres vont trouver un moment difficile pour l'aider. Elle participera à un cours de Zumba, accompagnée par la musique de Fabio, le jeune professeur. Après le cours, elle fera plus particulièrement connaissance avec Salma, une employée à l'accueil, ancienne résidente du palais de la femme elle-même, comme sa maman. Elles avaient fui la guerre en Afghanistan. Notre dernière phrase, lue aujourd'hui, nous dit « C'est elle, désormais. Oui, c'est elle, Salma. Avec fierté, elle est la gardienne du palais. » Nous retrouverons le palais de la femme dans notre prochain épisode du livre « Les Victorieuses » de Laetitia Colombani, édition Grasset, livre de poche. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
Partagez vos événements sur notre antenne en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.